Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Prise en charge médicale des personnes vivantes avec le VIH-Sida. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le Sida. À Kinshasa et dans l'arrière-pays, la prise en charge des PVV s'est faite gratuitement dans certaines structures spécialisées. Cependant, ces structures connaissent souvent des pénuries, des problèmes des antirétroviraux. Comment assurer une prise en charge adéquate des PVV? On en parle avec Vital Pene Rissasi. Alors, est-ce que vous confirmez qu'il y a un sérieux problème de prise en charge des PVV dans notre pays?
Effectivement.
Oui, cela est dû à quoi? Et pourtant, nous avons Pharmakina qui peut fabriquer des antirétroviraux.
Bon, au fait, le problème ne se situe pas à ces niveaux, comme vous le savez.
Oui.
Vous savez que la RDC, c'est un pays post-conflit.
Mmh.
Et cela veut dire que nous avons beaucoup de problèmes en termes de ressources financières. Cela veut dire aussi que nous avons de partenaires qui appuient
oui.
la lutte contre le VIH-Sida,
oui.
notamment le Fonds mondial et le projet MAP à travers le PNMLS.
Mmh.
Donc, ça, ce sont de principaux bailleurs qui interviennent en termes de la lutte contre le VIH-Sida et de la prise en charge. Mais le problème se situe au niveau de la gestion, l'harmonisation. C'est là où se trouve le problème.
Oui.
Parce que nous avons le ministère de la Santé qui a un programme spécialisé qui doit définir les directives en termes de la prise en charge de personnes vivant avec le VIH.
Donc c'est, le problème c'est au niveau de la gestion des fonds et autres dons des partenaires.
L'harmonisation des oui. interventions. Oui. Aujourd'hui, seulement à peine 10% de personnes vivant avec le VIH ont accès aux ARV.
Et on signale qu'en 2005, il y avait au moins 7500 personnes qui étaient sous ARV. 2008, 25 000. Donc, ça représente 10% sur les 250 000 qui doivent être soumis à ces traitements.
Effectivement. Et aujourd'hui, nous sommes à 32 000. C'est-à-dire qu'avec les efforts du Fonds mondial.
Oui, aujourd'hui, nous sommes à 32 000.
OK. Et aussi, nous avons 5 000 patients sous traitement à travers le projet MAP, PNMLS. Donc
mais
cela veut dire
c'est
que
insignifiant,
c'est hein. toujours insignifiant,
oui.
voilà exactement. Donc le problème reste toujours au niveau de la coordination des interventions.
Voilà, aujourd'hui comment vous êtes président national de l'Union Congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH, comment doit-on prendre en charge une personne malade? Après le dépistage, voilà, une personne, le dépistage est positif. Comment se fera la prise en charge de cette personne?
Bon, écoutez...
Est-ce qu'on doit la soumettre directement
Non, pas forcément, pas forcément. Ce
oui.
n'est pas comme ça. Il y a toujours de préalables d'éligibilité.
Oui. Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'on va d'abord vérifier le tableau clinique de la personne pour voir si réellement cette personne est éligible déjà au traitement antirétroviraux. Mais sinon, il va rester sous traitement IO.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il va pouvoir être mis sous prophylaxie, donc Bactrim, et contre d'autres infections opportunistes. Donc, qui peut être la malaria, qui peut être la diarrhée, qui peut être toute autre infection opportuniste.
Mmh.
Donc, ça, c'est selon le tableau clinique de la personne qui se présente au post-test. Mais en termes de traitement antirétroviral, c'est d'abord l'éligibilité. Donc, il faut d'abord un bilan. OK? Donc, mm-hmm. ça nécessite le suivi biologique. Donc, ça aussi, ça reste un problème dans notre pays parce qu'on a des problèmes des équipements de labo.
Donc, c'est-à-dire si une personne sait qu'elle est atteinte de la maladie, elle doit se rendre régulièrement, avoir un médecin qui va...
Exactement, c'est-à-dire que...
la suivre.
Voilà, donc cela veut dire que dans tout le centre de dépistage volontaire,
mmh.
il y a toujours un mécanisme de référence ou de contre-référence. Cela dépend parce que nous avons des CDV communautaires, nous avons des CDV intégrés dans les zones de santé,
mmh.
et nous avons des centres de prise en charge communautaires, tout comme nous avons aussi de structures sanitaires
mmh.
dans le système de santé qui assure déjà la prise en charge de personnes vivant avec le VIH. Et c'est là où nous avons vraiment des énormes difficultés, parce que nous devons intégrer la prise en charge dans le système de santé de notre pays. Et cela doit être défini par le PNLS, qui est l'organe du ministère de la Santé.
Et comment se fait le traitement pour cette personne? Donc chaque jour ou chaque semaine, elle doit se rendre à l'hôpital pour un suivi?
Non, pas chaque jour. Il a un rendez-vous selon son tableau de clinique. Mmh. Et généralement, c'est une fois le mois ou deux fois le mois selon le tableau clinique. Et il y a un médecin qui le suit. Et il y a le laboratoire qui intervient pour contrôler l'évolution de la personne. Et si la nécessité est présente que la personne doit être mise sous traitement antirétroviraux, et après avoir fait le bilan, vérifier le CD4 et la charge virale.
C'est quoi le CD4?
Bon, c'est les anticorps, hein, c'est les anticorps anti-VIH. Mmh. Et la charge virale, c'est pour voir le taux du virus dans le sang de la personne. Donc mmh. Voilà quoi.
Alors, la personne est éligible au traitement ARV, oui. Si et seulement le taux du virus.
Oui, du CD4. Non, le taux du CD4, oui, est inférieur à 350 microlitres. Donc c'est ça, c'est beaucoup plus technique.
Mais c'est trop technique là.
C'est trop technique et moi je suis pas aussi médecin. Oui. Bon voilà. Donc c'est ça. Donc nous avons un protocole de la prise en charge qui est édicté par le PNLS, oui, qui est le programme du ministère de la Santé, OK, qui édicte les normes, les directives en termes de la prise en charge. Donc le protocole dit que si la personne a le CD4 inférieur à 350, la personne doit déjà être soumise sous traitement antirétroviraux.
Voilà, donc c'est ça.
Il y a un préalable que tout le monde doit savoir, mais c'est beaucoup plus dans le centre où vous avez été dépisté, où vous avez été référé, mmh, que vous devrez être pris en charge.
Donc vous devez retourner.
Vous devrez suivre, oui, le conseil du médecin pour que vous puissiez adhérer au traitement et aussi arriver à avoir tous les conseils pour vivre positivement dans votre environnement et protéger aussi la communauté.
Alors, dans ces centres, est-ce qu'il y a un peu partout à travers le pays des médecins, c'est des généralistes ou des médecins formés spécialement pour les cas de VIH-SIDA?
Bon, dans le cadre du VIH-SIDA, aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui sont formés à travers tout le pays. Mmh. Donc, c'est toujours le PNLS qui a cette responsabilité de normes et directives. Donc, le médecin sont formés, les infirmiers sont formés, disons l'équipe soignante, quoi, mmh, dans les structures sont formés pour ces services de prise en charge de personnes vivant avec le VIH.
Voilà, vous avez peut-être vous êtes malade, peut-être que vous connaissez des gens qui en souffrent et vous savez pas comment faut suivre les traitements ou s'y rendre. Composez le 081 890 6394. Notre invité est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Donc alors, si la personne après le dépistage se rend à l'hôpital pour le traitement, et lorsque toutes les maladies opportunistes ont été, disons, soignées, je ne sais pas, est-ce, oui, qu'on peut arriver à soigner toutes ces maladies et la personne n'est-on plus malade?
Oui, et puis la personne reste asymptomatique.
Oui. Ça arrive, hein?
Non, mais pas ça arrive.
Oui.
Mais moi, je suis là devant vous. Comment je suis là?
Voilà. Alors, vous restez asymptomatique, c'est-à-dire que vous ne présentez aucun signe.
Aucun signe des infections opportunistes, quoi.
Oui. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un autre traitement qu'il faut suivre, un régime alimentaire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il n'y a pas un régime spécial, mais seulement, on recommande assez que la personne ait une alimentation équilibrée. C'est-à-dire qu'en termes de nutriments, en termes d'énergie, tout ça. Mmh. Mais tout ça est dans l'accompagnement psychosocial, dans l'éducation nutritionnelle. C'est tout un paquet. Donc la prise en charge holistique, c'est tout un paquet de services pour la prise en charge de la personne vivant avec le VIH. Mmh. Et dans tout le centre de prise en charge, ou que ce soit les structures ou les formations sanitaires, nous avons des personnels soignants qui sont formés, mmh, en rapport avec la prise en charge de personnes vivant avec le VIH. Mais, comme vous l'avez dit au début de notre émission, mmh, la couverture reste toujours insignifiante. Nous sommes à 10% par rapport aux besoins. Cela veut dire que, quelque part, les autorités politiques doivent s'interpeller. Mais nous, on félicite le chef de l'État parce que le 14 juillet 2008, il a promulgué la loi portant protection de personnes vivant avec le VIH et les personnes infectées. Mais il reste maintenant la question de matérialiser la volonté du chef de l'État. Souvent, c'est ça le problème dans notre pays.
Radio Okapi, Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50 ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Alors, pour ces personnes qui sont déjà soumises au traitement des antirétroviraux, comment doit se faire la prise, à quelle fréquence il faut prendre ces antirétroviraux, et puis qu'est-ce que ces produits produisent comme effet dans le système de la personne?
Bon, la prise des ARV est normalement deux fois par jour.
Deux fois par jour.
Oui, donc vous avez un comprimé que vous devrez prendre à 8 heures. Et le deuxième que vous devrez prendre à 20 heures.
Oui.
Donc vous avez une boîte de 60 comprimés que vous devrez prendre tout le mois. Mais cela dépend aussi des molécules. Donc nous avons plusieurs molécules.
Oui.
Donc ça dépend de l'éligibilité de la personne, ça dépend de l'adhérence de chaque personne à une autre. Et que le médecin va définir quelle est la molécule que cette personne doit prendre pour éviter que la personne puisse avoir des effets secondaires. C'est pour cela que je vous ai dit que le PNLS est en train de travailler sur le protocole national de la prise en charge qui doit être révisé. Parce que vous savez, la science évolue et nous devrons, nous aussi, malgré nos problèmes, faire un effort d'évoluer avec la science et d'améliorer la qualité des services dans nos structures de prise en charge.
Alors, pour une personne qui prend les ARV, quel est le régime alimentaire qui est à recommander?
Il n'y a pas de régime alimentaire très spécial, parce que vous savez d'abord que la majorité de personnes vivant avec le VIH sont démunies. 70% de ces personnes sont démunies. Et je dirais même 70 à 80% de ces personnes sont démunies et très vulnérables. Donc actuellement, il y a un sérieux problème en termes de l'appui nutritionnel. Donc très récemment, nous venons de lancer un projet pilote avec ACEF, qui est une ONG internationale américaine, Action contre la faim. Et il y a un projet pilote qui a déjà démarré ici à Kinshasa, dans le site de Njili Njili et Massina, pour pouvoir donner l'appui nutritionnel aux patients qui présentent une malnutrition sévère, et aussi aux patients qui sont nouveaux, de nouveaux cas enrôlés dans la prise en charge, bénéficient aussi de cet appui nutritionnel. Donc ça, c'est pour pallier, c'est parce que, vous savez, généralement, les patients sont démunis, vulnérables.
Vous avez dit 60%.
60 à 80%.
À 80%.
Oui. Donc, c'est pratiquement la majorité.
La majorité, oui.
Oui, parce que bon, ceux-là qui ont beaucoup plus de moyens, et c'est une minorité, et ils ne peuvent pas se donner dans l'activisme pour pouvoir faire changer les choses ou renverser les choses.
Donc, il n'y a pas un régime alimentaire spécifique, donc il faut...
Non, c'est juste la question d'équilibrer votre alimentation, donc en termes de nutriments, en termes de protéines, en termes d'énergie, donc manger le fruit, manger les légumes, manger la viande, voilà quoi. Donc, il va manger aussi de la chenille. Donc, c'est un programme pilote qu'on est en train de développer avec ACEF, avec des aliments locaux.
Les chenilles.
Oui, des aliments locaux qu'on trouve dans notre pays. Oui. Donc, c'est pas des aliments qui sont importés. Et ce sont les associations membres de ICOP Plus qui travaillent dans ces sites. Et ce sont des personnes vivant avec le VIH qui travaillent même dans ces sites pendant la distribution pour les autres.
Et surtout que vous avez dit 60%, 60 à 80% sont des personnes démunies.
Oui.
Donc, mais on peut toutefois s'organiser avec les produits locaux, tels que vous avez dit. Vous avez cité les chenilles qu'il faut beaucoup consommer.
Oui, les légumes.
Les légumes.
Oui. Le fruit, banane, avocat, donc en termes de protéines, prendre aussi de fruits comme l'orange, l'ananas, donc en termes de protéines, et le poisson fumé qu'on trouve chez nous ici, le poisson frais, donc voilà quoi. Donc c'est question d'équilibrer votre alimentation pour permettre une bonne adhérence au traitement.
Parce que si vous ne mangez pas bien...
Et évidemment, le médicament, l'antirétroviraux, devient à la fois toxique, quoi.
Mais à la longue, en prenant les antirétroviraux, est-ce que ça peut provoquer, provoquer d'autres problèmes sur le plan de la santé?
Généralement, non. Cela dépend peut-être pour des cas exceptionnels, d'échecs thérapeutiques. On enregistre aussi des personnes qui échouent au traitement en première ligne. Et cette personne doit être soumise au traitement deuxième ligne. Mais le traitement deuxième ligne reste encore un problème dans notre pays parce qu'on n'en a pas assez. Donc seulement avec l'appui de la fondation Bill Clinton qui appuie la prise en charge des enfants nés de mères séropositives, disponibilise les ARV de deuxième ligne. Mais ce n'est pas...
ARV première ligne, deuxième ligne.
Oui.
La différence est à quel niveau?
La différence est la composition de chaque molécule. Donc, les ARV de première ligne n'ont pas la même composition que les ARV de deuxième ligne. C'est-à-dire que si une personne échoue au traitement en première ligne, on n'a pas d'autre solution. Cette personne doit aller au traitement en deuxième ligne. Donc...
voilà,
rendre efficace
ces produits,
le traitement.
Les ARV agissent sur le virus, donc empêchent le développement
du virus dans
le corps. Dans cette émission, les auditeurs nous suivent de partout et ils appellent également pour réagir, pour poser des questions. Nous avons là en ligne Aimonté depuis à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Aimonté Koubabrok à Kananga.
Ok, on vous écoute.
Et je voudrais un peu savoir s'il y a vraiment des médicaments qui peuvent éradiquer totalement donc le VIH dans chez les patients, quoi.
Non, à ce jour, non, mon ami. On n'a pas encore trouvé un médicament qui peut guérir totalement du VIH. La science continue, mais on garde l'espoir. Mais les ARV permettent de bloquer le développement du virus dans le système immunitaire. Donc, c'est juste pour prolonger la vie de la personne vivant avec le VIH, pour lui permettre de travailler, pour lui permettre de recouvrer son immunité, afin de vaguer à ses responsabilités, à ses tâches quotidiennes. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire, mais on garde l'espoir. Donc, avec l'évolution, avec l'avancée de la recherche en termes de vaccins, je pense que nous allons arriver à pouvoir trouver un jour.
Est-ce que j'avais encore une deuxième préoccupation?
Allez-y rapidement.
Après le dépistage, est-ce que le patient pourra prendre tout bénévolement ou comment? Ça se fait comment un peu?
Non, ce n'est pas bénévolement. C'est-à-dire qu'après le dépistage, c'est toute une procédure. Donc, le conseiller va vous référer auprès d'un médecin et le médecin va vous suivre. C'est-à-dire que c'est le médecin qui va évaluer votre tableau clinique. C'est le médecin qui va faire le bilan en termes de biologie pour voir si réellement vous êtes éligible au traitement antirétroviraux. Et si vous êtes encore en symptomatique, apparemment en bonne santé, donc il va vous mettre sous prophylaxie donc pour vous permettre d'éviter les infections opportunistes jusqu'à ce que vous évoluiez très, très positivement. Quoi. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Mabrok depuis à Kananga. On va retrouver également Baptiste en Ituri juste après ceci.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Baptiste, bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, j'aimerais savoir, un séropositif peut durer combien d'années en utilisant les antirétroviraux?
Bon, cher ami Baptiste, vous savez, cela dépend d'une personne à une autre. C'est comme je l'ai dit, lorsque vous êtes devant le conseiller va vous donner tout un paquet de conseils pour que vous arriviez à vivre positivement. C'est-à-dire que vous devrez vous protéger et protéger les autres et protéger aussi votre environnement et toute la communauté. Cela veut dire que la durée d'une personne, il est difficile de le déterminer parce que vous pouvez mourir même de la malaria. Vous pouvez mourir d'une méningite. Vous pouvez mourir de la diarrhée. Donc, c'est beaucoup plus les infections opportunistes qui emportent une personne vivant avec le VIH. Très souvent.
Plutôt que la maladie elle-même.
Oui, plutôt que la maladie elle-même. Mais si vous observez votre traitement comme il faut, si vous adhérez à votre traitement comme il faut, je pense que vous pouvez vivre assez longtemps. Nous avons des amis, des collègues qui ont commencé les traitements il y a plus de 20 ans et jusqu'à aujourd'hui, ils sont avec nous et parmi nous. Et ils sont même des activistes aussi. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, en termes de médecine, on ne peut pas déterminer la durée d'une vie d'une personne.
Voilà. Oui, allez-y, Baptiste.
Alors, nous constatons que le nombre de sidéens et de séropositifs augmente de jour en jour. Tandis que le gouvernement, il y a des partenaires internationaux qui sont en train d'aider notre pays, c'est vraiment long. Mais on constate également que la population n'est pas informée de cette grave maladie. Alors, vous ne pensez pas que c'est mal gestion des autorités congolaises concernant les financements donc étrangers au sein international? Et si tout par exemple, je vais vous parler de Rwanda, oui, où la population est vraiment concentrée, mais aucun hôpital, un milieu stratégique de pays, Rwanda et Congo, des milliers d'activités. Donc la sécurité se développe, là je sais c'est mal protégé, mais aucune disposition est prise, il n'y a pas de centre de santé. Vous ne pensez pas que cela aussi peut interpeller vraiment la meilleure gestion des autorités congolaises?
Bon, merci. Je pense que je ne veux pas répondre de ça. Ben là, je ne sais pas. Quand vous parlez des autorités, vous parlez de quelle autorité? Parce que chaque autorité a une responsabilité. Mais ici, nous sommes beaucoup plus en termes de la prise en charge dans la santé.
Donc,
je pense que nous allons en prendre compte et vous êtes en Itouri. Oui. Donc, nous allons essayer de voir avec le programme du ministère de la Santé pour voir si on peut renforcer les structures de prise en charge qui se trouvent dans votre district.
Voilà, Dulcia nous appelle de Mbujumaï. Bonjour.
Bonjour, papa.
Oui, on vous écoute.
Oui, je voulais juste me poser une préoccupation à monsieur l'auditeur qui est là.
Oui.
De savoir quelles sont les précautions que nous pouvons prendre tout en étant en famille, de vivre avec le PVV.
Très bien. Très souvent, c'est ça la difficulté. Très souvent, c'est ça le grand problème. Donc, cher ami, vous devrez considérer que une personne vivant avec le VIH, c'est une personne comme toute autre. Évidemment, si vous avez un frère ou vous avez un ami ou un collègue de service, c'est question de pouvoir l'accompagner et de pouvoir l'aider psychologiquement pour que cette personne puisse se confier à vous. Donc, les précautions comme telles, dans tout le centre où la formation sanitaire, on le donne. C'est-à-dire que, je pense que vous savez que on ne peut pas être contaminé en serrant la main à une personne vivant avec le VIH. On ne peut pas être contaminé
ou
en partageant un repas. Donc, on ne peut pas être contaminé parce qu'on a fait une bise à une personne vivant avec le VIH. Donc, tout ça, ce sont des tabous. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 25 ans après le premier cas dans notre pays. Considérez qu'une personne qui est déjà sous traitement, le risque de contamination sont réduits. essentiellement. Donc, cela veut dire que cette personne a besoin de l'accompagnement psychosocial de sa propre famille d'abord, et ensuite de la structure qui le prend en charge.
Et parce que quand la personne est stigmatisée, ça va encore le...
Exactement. L'emporter.
L'emporter, oui.
Exactement. Donc, cher ami, je pense que c'est question de voir les choses positivement et de considérer qu'une personne vivant avec le VIH, c'est une personne comme toute autre personne, et qu'il y a de non-dits, comme on le disait dans le temps, comme c'est que je viens de vous citer, partager un repas avec une personne vivant avec le VIH, partager une toilette, habiter dans la même parcelle. Donc, ce sont des non-dits qu'aujourd'hui, on a déjà éradiqué. Donc, ce n'est plus le moment de penser que, en faisant tout cela, on peut être exposé au risque de contamination.
Voilà. D'accord, je vous remercie bien.
Merci Lucia Moujumaï, bonne journée. Et nous disons, et c'est par ici que prend fin cet entretien, nous disons merci à Vital Penerissassi, président national de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH en RDC, UCOP, please. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup, c'était un réel plaisir pour moi, en cette journée du 1er décembre, d'être invité parmi vous. Et je pense que ce n'est que le début, parce que les efforts, comme vous l'avez dit, sont encore énormes. Donc nous aurons encore besoin de mobiliser les autorités politico-administratives pour que vraiment que nous soyons tous impliqués et que nous puissions arriver à renforcer la prise en charge et la prévention du VIH en RDC.
Au capitaine.